émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans l'émission Les Échos de la Solidarité Internationale Isabelle de Boissesson pour l'association France-Palestine Solidarité. Nous allons parler aujourd'hui des campagnes nationales de cette association dans un contexte malheureusement très compliqué qu'est le confinement. Alors tout d'abord, nous allons traiter de la question centrale de cette émission, à savoir la solidarité internationale. La FPS est engagée dans de nombreux projets concrets avec les partenaires palestiniens dans le domaine de la production agricole notamment, mais également de la culture et de l'aide à l'enfance via des parrainages. Ce sont tout autant de projets nécessaires qui sont souvent menés avec des collectivités locales. Alors, en ces temps de crise sanitaire, où nous sommes plus que jamais coupés dans nos relations, de toute forme d'ailleurs, de quelle manière France-Palestine 34 arrive à faire vivre cette solidarité internationale pour répondre aux besoins des populations qu'elle accompagne? Et comment les collectivités locales sont incluses dans cette démarche, malgré tout, pour assurer une solidarité politique?
Alors, la réponse, donc, vous le dites dans la question, le contexte fait que nous ne pouvons pas agir comme nous le faisons d'habitude, c'est-à-dire aller à la rencontre des Français pour faire passer le message de ce que nous faisons avec les Palestiniens. Mais nous avons mis en place des campagnes qui peuvent se faire via Internet, essentiellement. Actuellement, les campagnes les plus importantes concernent, hélas, les prisonniers politiques palestiniens qui sont arrêtés de plus en plus de manière arbitraire. Donc, il y a une campagne qui court. Nous avons également une campagne concernant Salah Amouri, qui est un avocat franco-palestinien, qui a été lui-même emprisonné plusieurs fois et qui est menacé d'expulsion de Jérusalem, qui est sa ville, là où il vit. Il a épousé une Française qui est en France avec son enfant. Ils ne peuvent se rejoindre. S'il part en France, il ne peut retourner en territoire palestinien et vice-versa. Donc, une campagne le concerne particulièrement et nous avons envoyé de nombreux courriers, non seulement France-Palestine 34, mais toutes les associations de France, aux parlementaires et également au ministère, notamment au ministère des Affaires étrangères. Il y a également actuellement des campagnes de boycott sur des produits des colonies. Il faut savoir que nous sommes allés devant le Parlement européen pour faire reconnaître le droit au boycott. Le Parlement européen a statué en faveur de la liberté d'expression et du droit au boycott, qui est malheureusement retoqué actuellement par la France. Et nous ne savons donc si ces campagnes vont pouvoir se poursuivre sans se trouver hors la loi dite française. La France a une position un peu ambiguë, ambivalente. D'un côté, elle dit « oui, les colonies sont illégales, ne doivent pas exister ». Ils nous laissent plus ou moins faire nos campagnes contre les produits de colonies. Mais si l'on touche à Israël sur certains territoires qui sont quand même des colonies, nous sommes passibles d'une condamnation. Voilà, ce sont donc les grandes campagnes qui actuellement tournent en France, et pas qu'en France, mais toutes donc par voie internet ou par courrier également. Nous espérons avoir prochainement l'opportunité de pouvoir nous retrouver soit sur la place de la Comédie à Montpellier, soit dans des lieux publics pour traiter et faire aller à la rencontre du public avec lequel nous avons la plupart du temps des relations très courtoises et des débats intéressants. Voilà pour le sujet principal, je pense.
D'accord, merci. Tout de suite, avant de continuer sur notre deuxième partie d'émission, un court interlude musical. Vous avez choisi la musique « Passeport » de Marcel Khalif.
وكان جرحي عندهم معرضا لسابح يعشق جمع الصور لم يعرفوني آه لا تتركي كفي بلا شمس لأن الشجرة يعرفني تعرفني كل أغاني المطر لأن الشجرة يعرفني تعرفني كل أغاني المطر لا تتركيني شاحبا كالقمر كالقمر
Rebondir sur ce que vous dites et pour introduire ma prochaine question, il est d'actualité de parler de numérisation et d'impact social via les réseaux. La FPS se mobilise chaque année et depuis des années pour dénoncer la violation du droit international et l'atteinte aux droits humains que représente la barrière israélienne. Des actions revendicatives fortes sont portées par la FPS chaque année à la date du 9 novembre, à l'occasion de la Journée mondiale pour un monde sans mur. Date clé, c'est la chute du mur de Berlin en 1989. C'est la date où chaque année, des millions de personnes continuent de revendiquer la chute du mur israélien. Alors cette année, en dépit de la possibilité de se mobiliser, action très symbolique et revendicative, le soutien aux Palestiniens consistait notamment à poster une photo avec le hashtag « Un monde sans mur ». C'est une très belle action de solidarité envers le peuple palestinien pour pallier notamment à la possibilité de manifester. Alors Isabelle, pouvez-vous nous dire ce que cette crise sanitaire internationale a porté comme changement concernant la tenue de cette journée mondiale pour un monde sans mur ? Et par la suite, j'aimerais que vous m'en disiez davantage sur la suite des activités militantes et revendicatives de l'AFPS 34 dans un contexte où il est malheureusement de plus en plus compliqué de manifester publiquement. Est-ce que la revendication numérique représente la seule alternative possible à la mobilisation collective ?
Alors, en ce qui concerne notre action via Internet et le hashtag, nous avons demandé aux militants et sympathisants de reproduire une photo où on voit le slogan « Non à un monde avec des murs » et chaque personne devait se prendre en photo. Il se trouve qu'à travers la France, beaucoup de militants ont joué le jeu. On peut retrouver sur les sites de l'AFPS ces murs, ça représente en fait des murs entiers de photos. Et je pense que ce qui est bien, c'est que les Palestiniens ont dû recevoir également ces panneaux et voir que de nombreux Français sont solidaires. Ce n'est qu'un geste symbolique, mais c'est un geste important pour eux parce que lorsque l'on va en Palestine, nous sommes touchés au moment où nous les quittons, ils nous disent « parlez de nous, faites qu'on existe, dites ce qui se passe ». Or, quand ils voient nos visages de Français avec ces panneaux, ils se disent donc « ils sont là, ils sont présents, ils sont à nos côtés ». Voilà en ce qui concerne donc cette campagne qui, hélas, n'a pas pu se faire comme toutes les autres années. Ce n'est qu'un acte symbolique, comme je redis une fois de plus. Mais si nous, Français, on peut se dire « mais bon, c'est que l'importance, c'est pas grand-chose », ce que je viens de dire montre bien que c'est important pour les Palestiniens. Cette solidarité, elle les touche au cœur et ça leur dit « nous sommes là à vos côtés ». En ce qui concerne les murs, avant de parler des murs en Palestine, entre Israël et Palestine, il est important de rappeler qu'il y a des murs partout dans le monde et de plus en plus. Il y en avait 10 en 1945, il y en a plus de 70 recensés aujourd'hui. Le plus long est situé entre l'Inde et le Bangladesh. En Afrique, on trouve entre Maroc et Algérie, mais également entre Kenya et Somalie. En Amérique, il y a celui qui sépare le Mexique des USA. Quant à l'Europe, elle se barricade de plus en plus derrière des murs. Il y a les murs en Hongrie, en Grèce, en Lituanie, dans les enclaves espagnoles, Ceuta et Melilla. Mais le mur dont je veux vous parler aujourd'hui, bien entendu, est celui qui sépare Israël de la Palestine. Ce mur a démarré en 2002. Il atteindra 108 kilomètres. Ce sont des murs qui ont plus de 7 mètres de haut, avec des clôtures électriques de 4 à 5 mètres. 460 kilomètres sont déjà achevés. Ces murs sont le symbole et l'outil de la politique d'annexion et d'apartheid d'Israël. Elle dépouille les Palestiniens de leurs terres, les enferme, sépare les familles, entrave les déplacements, prive d'accès à la santé et à l'éducation. Contrairement à ce que dit Israël en parlant de murs de sécurité, ce n'est pas un outil de sécurité. Il ne suit pas la frontière, mais il traverse le territoire palestinien, mitant, c'est-à-dire parcelant, tel un pulse, ce qu'il reste de la Cisjordanie. Quant à Gaza, nous le savons, Gaza est totalement enclavée comme une prison à ciel ouvert. Elle est également un outil, ces murs, c'est un outil d'expérimentation de l'industrie sécuritaire d'Israël, qu'Israël vend ensuite à d'autres pays. Elle empêche toute relation entre les peuples qui ne se rencontrent désormais que lors de la confrontation entre une armée d'occupation violente et une population non armée. On peut s'étonner de voir ou d'entendre souvent à la télévision et dans les médias que l'on parle des violences de Palestiniens, soit ce qu'on voit Gaza, les roquettes qui partent de Gaza, soit des hommes avec un couteau dans les rues de Jérusalem ou autre. Mais comment peut-on imaginer que ce peuple qui tente depuis tant de temps toutes les possibilités de relations, que ce fut le dialogue, ça a été les tractations internationales, ça a été un temps en effet les guerres, mais c'est essentiellement par des moyens pacifiques que la population palestinienne essaye de régler le problème. Et je le dis d'autant plus que j'ai été sur place et que je les ai vus militer le long de murs de manière totalement pacifique. Alors, il y a la jeunesse qui désespère et qui parfois prend les seules armes qu'elles ont à leur pouvoir, c'est-à-dire des pierres, et que peu des pierres contre des tanks et des armes très lourdes. Donc on peut comprendre qu'à un moment, ils aient envie de lancer leurs pierres pour dire au monde leur désespoir de ne jamais voir un pays réel se construire. Je pense que les Français, s'ils entendaient ces propos, plutôt que de voir des images uniquement d'agression, aurait un autre regard. Il y a déjà une grande partie de la population française qui n'est pas nue, mais pour le reste, il serait bien que les informations qui passent, et je suis contente de pouvoir parler aujourd'hui pour le dire, sachent cela. Il y a un grand mouvement de revendication non violente en Palestine. Et la minorité, je le redis, à part quelques extrémistes comme il y en a dans tous les pays, hélas, c'est une jeunesse désespérée qui lance des pierres et on devrait sourire en voyant des pierres lancées et non pas envoyer des hommes armés qui les violentent et les tuent ou les rend infirmes, puisqu'il y a énormément de jeunes infirmes en Palestine actuellement. Voilà, on peut espérer qu'avec l'arrivée de Joe Biden, rien ne sera résolu, mais que la situation des Palestiniens s'adoucisse un peu, que le dialogue redémarre un tant soit peu. Nous pouvons l'espérer. Quant au mur, non seulement Israël les étend, mais les colonies, profitant de la situation actuelle, le gouvernement de Netanyahou étend les colonies. Et le drame, c'est que n'importe quelle colonie est en construction. Elle s'appelle, je ne sais pas si je vais bien prononcer le nom, Jiva Amatos. Cette colonie sera comme un mur qui va séparer Bethléem, si elle se réalise vraiment, ce qui semble être le cas hélas, va séparer Bethléem de Jérusalem, ce qui n'était jamais arrivé. Il y avait une continuité territoriale entre Jérusalem-Est, partie palestinienne, et Bethléem. Et c'est très important, et pour l'économie, et pour la culture, et pour les religions également, qu'elles soient l'islam, la judéité ou la chrétienté. Voilà, c'est en gros ce que je peux dire, en résumé, sur le drame de ces murs et de la situation des Palestiniens enclavés derrière leurs murs.
D'accord, merci Isabelle. Et on espère vivement que la situation en Palestine va s'améliorer avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Nous allons maintenant nous immerger dans cette culture merveilleuse au travers d'une musique traditionnelle palestinienne, la dask palestinienne.
دامك عن هالوطن يا نفسي غريبة وحياة مهدي المسيح
تراب الوطن وحن إيدي.
سابوا أرض الدار شيلوا الحمال، يا ساكن بالغربة عبلادك تعال، ما بكفي المكتوب ما بكفي المرسال، ملت الأوراق خط حروفنا.
اشتاق اشوف الزارع اللوز والتيه، وازور ارض الجليل ومي الطبرية.
Nous sommes de retour avec Isabelle de Boissezon pour cette dernière partie d'émission où nous allons parler de culture. La ville de Montpellier est jumelée avec Bethléem depuis 2012. Bethléem, ville millénaire d'histoire et de culture, désignée cette année 2020 comme la capitale de la culture arabe. À l'occasion de ce jumelage, la FPS 34 propose plusieurs événements à caractère culturel dans les villes de Montpellier et de Sète, dans le but notamment d'organiser une journée festive et d'information, ainsi qu'un colloque consacré à la situation de Bethléem. Qu'en est-il aujourd'hui de la tenue de cet événement ?
Alors, en effet, nous avions programmé tout au long de l'année 2020 des festivités culturelles et colloques en hommage à la ville de Bethléem. Le virus a fait que l'a écourté grandement notre programme. Nous avions démarré au mois de mars avec une très belle exposition hommage à Mahmoud Darwish par le grand peintre Ernest Pignon-Ernest. Ça a été un succès, malheureusement, ça n'a duré que 8 jours. Mais en l'espace de 8 jours, nous avons eu plus de 1000 personnes qui sont venues visiter cette exposition. Nous avons été obligés d'arrêter cette manifestation et nous n'avons pu reprendre qu'au mois de mai-juin, où devait être programmée la journée de Bethléem à la Maison internationale, mais nous devions avoir des intervenants et tout ça, se faisant en dernière minute, n'a pu avoir lieu. Mais il est évident que nous souhaitons déborder sur 2021 et réorganiser cette journée Bethléem, un peu en parallèle, c'est un peu un clin d'œil ironique. Montpellier donne l'opportunité aux Juifs de Montpellier d'organiser la journée de Jérusalem, ce qui est tout à fait louable, mais qui est une journée plus politique qu'une journée vraiment culturelle. Donc, notre clin d'œil, c'est journée de Bethléem, c'est-à-dire symboliquement journée pour les Palestiniens. Cette journée aura lieu probablement au mois de juin prochain. Quant à cet automne, nous avons pu, au Festival Arabesque, tenir un stand sur lequel nous avions installé une vidéo avec de très belles photos de Bethléem et des environs de la ville, que ce soit des photos des Palestiniens de Bethléem, des habitants, que ce soit de la nature, que ce soit des monuments importants, et malheureusement aussi des murs, car Bethléem est vraiment pratiquement sur trois côtés enclavé de murs. Et là aussi, pour y être allé, je peux vous dire que c'est assez impressionnant entre les checkpoints, les murs, les miradors. Et elle comprend également deux camps de réfugiés dont j'ai oublié le nom tout d'un coup, je devrais m'en souvenir, mais bon, tout ça est très émouvant et très touchant. Donc, nous avons eu cette journée à Rabesk. Nous avons pu faire venir l'ambassadeur de la Palestine. Ils sont deux. Celui qui est venu nous rejoindre, excusez-moi, j'ai un trou, bien que je... Mounir Anastase. Il y a Elias Sambar, qui est un des ambassadeurs, et Mounir Anastase est également un autre ambassadeur de la Palestine. Il est venu donc à Rabesk, nous a fait une conférence très intéressante sur la ville, sur son histoire, sur sa situation actuelle. Nous avons eu également un concert avec le quartet Sabil. Ce sont des Palestiniens qui vivent en Europe, puisque les Palestiniens de Palestine, de Cisjordanie, Gaza ne pouvaient pas quitter le territoire actuellement. Nous avons eu aussi une sieste, ce qu'on appelait une sieste politique et musicale, avec Anas Halili, qui est un poète, et Ahmad Dari, qui a joué du oud. Nous avons également eu un atelier de calligraphie qui a attiré beaucoup de monde, y compris des jeunes. Donc, c'était deux très beaux week-ends de septembre. Ensuite, nous avons pu avoir passé un film. Nous devions présenter au Diagonale de Films. Nous avons pu y présenter l'Apollon de Gaza, qui est un film très récent, assez surprenant, traité un peu comme un policier, mais qui traite en fait de l'histoire, de l'identité et de la manière dont un événement, c'est l'histoire d'une statue d'Apollon qui est trouvée dans la mer à Gaza, et comment un événement pareil peut être vu de manière différente par les Palestiniens eux-mêmes, qu'ils soient historiens, ethnologues ou simples citoyens, par les politiques, et que symbolise donc ce passé dans une ville et même un petit état, Gaza, qui fut à la charnière des mondes culturels et qui est tellement meurtri actuellement. Donc ce film a été très intéressant, a touché le public et nous avons eu un débat intéressant. Nous devions présenter également le Char et l'Olivier, là, début novembre, et le confinement nous a imposé de le reporter. Voilà pour les projets. Si jamais des confinements il est prévu, le Théâtre Jean Villard compte présenter, alors la date exacte, je dois l'avoir sous les yeux, le mardi 9 et jeudi 10 décembre, est en principe prévu au Théâtre Jean Villard la programmation de Jours tranquilles à Jérusalem, une pièce de Mohamed Kassimi, qui est dramaturgie de Bernard Bloch, et mise en scène par Jean-Claude Foll. De toute façon, pour les gens qui sont en contact avec nous, dont nous avons les mails, nous informerons bien entendu si cette programmation a lieu, et si jamais nous pouvions programmer courant décembre quelque chose, mais nous n'avons rien pour l'instant de bien défini. Voilà, donc peut-être en décembre, et sinon pour 2021, bien entendu, vous serez au courant, mais certainement la journée de Bethléem. Ça, c'est une chose sûre. Nous y tenons, nous estimons que ce programme écourté ne fait pas honneur à cette ville qui mérite, à cette ville et surtout aux citoyens palestiniens dans leur ensemble, qui méritent qu'ils soient mis un peu à l'honneur. Voilà pour le programme Bethléem.
Merci beaucoup Isabelle d'avoir été présente avec nous et de nous avoir partagé toutes ces précieuses informations. Peut-être avant de nous quitter, pourriez-vous dire à nos auditeurs les lieux où ils peuvent vous suivre et se tenir informés de l'actualité de France-Palestine 34?
Alors déjà, vous avez le site de la AFPS. Vous tapez AFPS, vous tombez sur le national. À ce moment-là, vous voyez au niveau national ce que fait l'AFPS. Si vous souhaitez vous joindre à l'AFPS 34, il suffit de taper AFPS 34, vous aurez toutes les coordonnées. Par ailleurs, nous avons, le premier mardi du mois, hors confinement, des réunions qui concernent le CA, c'est-à-dire le conseil d'administration de l'AFPS, mais nous y accueillons volontiers des gens qui veulent être informés. Donc, premier mardi du mois, à la Maison des Relations Internationales, ce qu'on appelle également MLK, c'est-à-dire Martin Luther King, et c'est boulevard... Bon, c'est à côté du Corum.
C'est le boulevard Louis Blanc, on précise.
Voilà, excusez-moi, j'ai perdu. Boulevard Louis Blanc, je devrais savoir. Voilà, je crois que c'est 27 numéro boulevard Louis Blanc.
C'est ça.
Et puis, sinon, toujours, on parle en dehors de période de confinement, nous sommes assez régulièrement sur la place de la Comédie. Nous sommes devant la maison du tourisme, comme nos rassemblements. Nous y sommes souvent le vendredi dans l'après-midi. Voilà, ce sont les trois lieux. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer des mails, nous vous répondrons. Et nous serions très heureux d'avoir de nouveaux adhérents. Nous sommes actuellement à Montpellier à peu près 120 adhérents, mais nous serions heureux d'avoir plus d'adhérents, et notamment des jeunes.
D'accord, merci beaucoup Isabelle. C'est la fin de notre émission. Merci à tous nos auditeurs et auditrices d'avoir été présents avec nous. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Prenez soin de vous.